Bonjour à tous. J'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour 2024. Et donc, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui, au sein du séminaire général de Mésopolis, à l'invitation de l'axe 4 dynamique socio-spatiale et mobilisation politique, la chercheuse Doris Bu-Sao, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université de Lille 2. Dans le cadre de son master de sociologie politique à Sciences Po Paris, Doris Bu-Sao effectue un premier séjour d'études en 2009 au Pérou et rend compte de mobilisation d'organisations autochtones contre des projets d'extraction pétrolière dans la province amazonienne de Bagua. Puis, en tant que chercheuse associée au Centre de recherche internationale de Sciences Po, elle obtient un contrat doctoral ainsi qu'une bourse d'aide à la mobilité de l'Institut français d'études andines. Entre 2015 et 2017, elle rédige sa thèse de doctorat tout en enseignant à l'Université Paris-Nanterre au titre d'ATER à temps partiel. Doris Bu-Sao soutient à Paris, à l'Institut d'études politiques, sa thèse en sciences politiques en 2017 sous la direction de Lilian Mathieu, un manuscrit qui s'intitule « Asseoir l'État, contester et instituer l'ordre extractif en Amazonie péruvienne ». Soit le choix d'une thématique qui émarge dans le champ de la sociologie des mobilisations politiques et dans celui de la sociologie de l'environnement, puisqu'elle traite des mobilisations dites indigènes face à l'extraction des ressources naturelles. À première vue, le titre de la thèse « Asseoir l'État » peut interpeller. C'est comme si les contestataires indigènes avaient réussi à faire asseoir la puissance étatique dans leur village, aux confins de la nation, pour affermir son assise territoriale symbolique et pratique. Doris Bu-Sao vient nous présenter aujourd'hui son ouvrage « Le capitalisme au village, pétrole, État et lutte environnementale en Amazonie » qui a été publié aux éditions du CNRS en 2023. Elle nous livre au grain fin, à travers cette publication, une analyse ethnographique de mouvements protestataires indigènes face à l'extraction pétrolière capitaliste qui s'apparente à des formes d'aliénation culturelle et territoriale dans une région reculée du Pérou. En d'autres termes, comme elle va nous l'expliquer dans quelques instants, elle cherche à rendre compte, au-delà des configurations d'acteurs antagonistes binaires, elle cherche à rendre compte des logiques sociales complexes entre, d'une part, les entreprises du secteur extractif et les autorités gouvernementales qui encadrent leurs activités, et, d'autre part, des communautés autochtones du bassin amazonien péruvien qui se mobilisent depuis 2006 et qui ont donné lieu à une série de mouvements contestataires émaillés par des affrontements parfois meurtriers. En effet, si Doris Bu-Sao nous invite notamment par ses analyses des dynamiques de mobilisation à côtoyer par le bas les acteurs de la contestation, c'est-à-dire ces villageois des rives du fleuve Pastaza, Rio Pastaza, auprès de la plus ancienne concession pétrolière de l'Amazonie péruvienne, et si elle nous apporte un éclairage sur leur réseau de sociabilité, d'affinité ainsi que leur rapport de parenté, mais aussi de rivalité, elle nous donne à voir également le jeu des acteurs gouvernementaux dans la mise en place de ces enclaves économiques, selon une perspective quasi foucauldienne du pouvoir. À la question des conséquences des mobilisations protestataires indigènes au Pérou, se pose ainsi l'équation complexe entre le fait de contester ou, à rebours, instituer l'extraction des ressources naturelles pour consolider l'ordre social dans les territoires autochtones aux confins de la nation. L'intervention de notre invité sera suivie de celle de Maurice Olive, qui a sympathiquement accepté de jouer le rôle du discutant. Nous l'en remercions. Donc, sans plus attendre, je cède la parole à Doris Bu-Sao, notre invité. Merci.
Eh bien, merci beaucoup, Jean. Je n'ai pas besoin de parler dans le micro. Et là, j'ai mon micro, donc on devrait m'entendre à distance. Merci beaucoup, Jean, pour cette présentation extrêmement exhaustive et plus généralement pour cette invitation à vous présenter aujourd'hui ce livre qui est paru il y a quelques mois et que je présente pour la première fois en séminaire. Donc je suis très heureuse de le faire ici, d'autant plus que, je m'en souvenais en parlant avec Maurice tout à l'heure, en fait, je crois que l'une des toutes premières présentations que j'ai faites de ce terrain de thèse, c'était il y a 10 ans, et c'était à peu près ici, c'était au Sherpa, dans le cadre d'un colloque qui a donné lieu à une belle publication co-dirigée par Maurice et Stéphanie, qui n'est pas parmi nous. Voilà, ça a été un moment qui, pour moi, a été très inspirant, et donc je suis très contente de venir faire cette toute première présentation dont vous me ferez des retours pour que je puisse les améliorer par la suite. Alors, J'avais envie de commencer avec cette couverture. Donc, c'est une couverture qu'on a. Enfin, je ne l'ai pas dessinée. C'est un ami et dessinateur de bande dessinée, Damien Cuvillier, qui en a fait le dessin. Et il en a fait le dessin à partir d'une idée que je lui ai soumise, en fait, pour progressivement rentrer dans l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit finalement un tableau un peu familier quand on s'imagine aujourd'hui l'actualité sociopolitique en Amérique latine. On voit voilà, ces grandes installations, ces infrastructures dont on devine l'impact écologique, donc les cheminées, les puits de pétrole, etc., qui émergent derrière les arbres. Et on voit des hommes, des femmes, des enfants de dos qui marchent sur un tube de pétrole qui tiennent donc des panneaux. Ces personnes, elles appartiennent à ce qu'on appelle au Pérou, ce qui est appelé dans le droit des communautés natives, c'est-à-dire ces villages qui sont reconnus dans le droit comme étant la propriété collective de populations dites autochtones. Alors, c'est pas seulement les villages, d'ailleurs, c'est un territoire qui est plus large et qui se matérialise à la fois par une zone résidentielle, mais il va y avoir des tombes, il va y avoir des parcelles cultivées, et tout ça se trouve dans la forêt amazonienne. Et là, voilà, on voit clairement qu'il y a une mobilisation qui se met en place, des personnes qui marchent vers l'entreprise pour réclamer quelque chose. Et finalement, on voit cette image un peu classique d'un territoire qui est envahi par des installations polluantes et des autochtones qui s'unissent en famille pour dénoncer cet impact. Mais quand on regarde un petit peu plus près la couverture, alors effectivement, hein, on voit le bleu pétrole en bas qui suggère la pollution, qui suggère des ruptures de tubes qui ont lieu fréquemment avec des hydrocarbures qui se déversent effectivement sur le territoire. Mais on voit aussi des drapeaux péruviens, alors que ce sont des autochtones. Donc on voit qu'il y a une dimension aussi nationale dans la lutte. On ne voit pas ce qui est écrit sur les banderoles, sur les panneaux. Donc en fait, on ne sait pas vraiment ce que ces personnes revendiquent. Et surtout, on voit des hommes avec des casques de chantier et avec des habits de sécurité, avec des uniformes, parce qu'en fait, ces hommes qui protestent, ce sont aussi des personnes qui travaillent en tant qu'ouvriers dans ces installations pétrolières. Ils peuvent aussi bien protester en tant qu'autochtones qu'en tant qu'ouvriers. En fait, c'est toute cette ambivalence que j'ai eu envie de raconter et de mettre en avant à travers cette couverture. Cette couverture qui a été pensée à partir. Alors, est-ce que je vais réussir à passer les images? Voilà. À partir d'une photo que j'avais prise en accompagnant ces ouvriers. Alors, il se trouve que. Ah, mince. Non, c'est bon. Parce que je regarde l'écran en face et ça s'est éteint, mais c'est revenu. Au-delà de la contestation, quelque chose qui m'a intéressée très rapidement, c'est tous les dispositifs de responsabilité sociale des entreprises qui sont mis en place par la compagnie pétrolière dans une stratégie de pacification des conflits ou d'anticipation de ces conflits. Donc j'y reviendrai tout à l'heure. Mais l'un de ces dispositifs consiste en fait à ouvrir l'accès à l'emploi ouvrier aux hommes qui habitent dans les communautés natives environnantes, voire, j'en parlerai plus en détail tout à l'heure, à promouvoir la création de ce qui s'appelle des entreprises communales, c'est-à-dire des entreprises gérées par les habitants des communautés natives, qui doivent être créées par ces communautés natives, et qui leur permettent de gérer l'emploi, la main-d'œuvre de personnes qui vont effectuer des tâches de maintenance, etc., sur le site pétrolier, et qui sont donc effectivement à la fois autochtones, qui se disent autochtones ou indigènes, comme on dit au Pérou, et ouvrières. Et donc là, c'est l'une des personnes que j'ai accompagnées lors d'une journée de travail et qui marchait en équilibre sur ce tube. J'ai trouvé cette image, moi, elle a retenu mon attention, parce qu'en fait, très souvent, j'ai vu des hommes et des femmes marcher en équilibre sur les bords des pirogues. Les pirogues ou les bateaux qu'on utilise pour se déplacer principalement, parce qu'il n'y a pas de route là-bas, les axes de déplacement, ce sont des rivières. Et cet équilibre que moi, je n'avais pas osé tenter, parce que j'aurais risqué de me ridiculiser, de tremper mes carnets de terrain dans l'eau, bah, eux, ils en avaient une maîtrise assez parfaite. Et je trouvais que cette manière de marcher sur le tube me rappelait en fait justement un rapport à l'équilibre et au corps qui ici était réinvesti dans la pratique des infrastructures industrielles en pleine forêt. Et donc c'est à partir de là qu'est venue cette idée de couverture, couverture qui finalement essaye de rappeler que derrière la mobilisation, il y a des logiques de socialisation, d'hybridation de l'ordre social, économique et politique. Et c'est tout ça que j'essaye de raconter dans ce livre, c'est de finalement dresser un tableau nuancé où on voit que les situations conflictuelles, parfois extrêmement violentes, peuvent coexister avec des ententes informelles, avec des coopérations, voire avec des amitiés paradoxales, pour reprendre tout le langage de l'analyse du clientélisme, entre compagnies pétrolières et villages voisins. Alors, Ce tableau nuancé, il tranche avec les récits qui circulent généralement sur ce genre de configuration où l'affrontement prévaut. C'est l'image qu'on en a souvent depuis l'Europe. C'est l'image que moi, j'en avais quand je me suis rendue au Pérou pour la première fois en 2008. Et c'est l'image qui a été renforcée lors de cette année que j'ai passée au Pérou, 2008-2009, où je faisais à l'époque des études d'anthropologie, même si moi je viens d'une carrière de sciences politiques, mais pendant un an j'ai étudié l'anthropologie là-bas. Et il se trouve que c'est une année qui a été marquée par une vague de mobilisation contre une série de décrets adoptés dans le cadre d'un traité de libre-échange signé entre le Pérou et les États-Unis. Et ces décrets étaient accusés par les organisations indigènes d'Amazonie de favoriser la concession de territoires autochtones, de communautés natives, à des intérêts privés, et notamment à des compagnies pétrolières. Et cette vague de mobilisation, elle a donné lieu, le 5 juin 2009, à un affrontement majeur, donc qui a eu lieu à Bagua, dont tu as parlé tout à l'heure, Jean, qui a fait 33 victimes officiellement, dont 23 policiers, donc, parce que en fait, les manifestants qui ont essuyé des tirs des forces de l'ordre ont répliqué en exécutant des otages. Et donc voilà, ça a été un affrontement extrêmement violent des deux côtés, qui a été très marquant, qui a fait beaucoup parler de l'Amazonie péruvienne, et qui m'a amené moi à décider ensuite de travailler sur ces enjeux-là, sur ces enjeux de politisation, de mobilisation face au développement des industries extractives en Amazonie péruvienne, puisque l'Amazonie péruvienne, finalement, c'est là où on extrait le plus de pétrole, mais c'est aussi là où, en premier, des organisations se sont mobilisées en tant qu'autochtones, en tant que minorités ethniques, en se saisissant en fait de ce stigmate historique qui est être indigène et en le revendiquant pour se mobiliser face à ces industries. Et en fait, assez rapidement, sur mes premiers terrains que j'ai fait en 2010 puis 2011 dans le cadre d'un mémoire de master, je me suis rendu compte en enquêtant sur ces situations que l'antagonisme, le rapport de force, l'affrontement violent ne permettait pas de tout comprendre. Il existe. Mais il existe aussi des interactions quotidiennes, des négociations, des rapports clientélaires qui se mettent en place, que j'ai d'abord analysé dans le cadre d'une première enquête sur une organisation d'étudiants autochtones en milieu urbain, à Iquitos, une ville amazonienne, et qu'ensuite j'ai approché de plus près en allant enquêter dans ces villages qui entourent cette concession pétrolière située dans le nord de l'Amazonie péruvienne. Alors, hop, j'ai légèrement inversé lors de ma présentation par rapport à ce que j'avais prévu sur mon PowerPoint. Donc c'est là que je me suis rendue. Alors, parce que, désolée, je ne sais pas. Ouais, on va le réduire comme ça. Voilà. Donc voilà une carte qui donne à voir un peu les lieux où j'ai enquêté, par lesquels j'ai déployé un peu ce questionnement entre. Le terrain a été mené entre 2012 et 2014 au long d'une quinzaine de mois au total de présence. Donc à la fois à Lima, la capitale du Pérou, et Iquitos, qui est la capitale de la province du Loreto, qui est cette grande province amazonienne qui fait à peu près la superficie de la France hexagonale. Et ensuite, tous ces endroits-là, Tarapoto, Yurimagua, San Lorenzo, j'ai dû y passer pour finalement accéder à Andoas. Andoas, qui est à la fois le nom de la base pétrolière, l'une des plus anciennes où l'on extrait depuis 50 ans du pétrole, mais c'est aussi le nom d'une ancienne ethnie disparue, dont je raconte l'histoire dans le livre, là je ne reviens pas dans le détail, et c'est le nom de deux communautés natives, il y a Andoas Nuevo, la nouvelle, et Andoas la vieille, qui sont juste à côté de ce lot pétrolier qu'on voit, enfin ce qu'ils appellent des lots, là, donc c'est une espèce de polygone qui aujourd'hui s'appelle le lot 192 et à l'époque s'appelait le lot 1B. Alors j'ai repris une vieille carte dans laquelle j'avais anonymisé le nom du lot, donc ce n'est pas le bloc B, mais bon, bref, ça c'est un détail. À partir de cette enquête, finalement, j'ai construit une thèse de sciences politiques dont est issu ce livre. Alors, j'y reviendrai peut-être si la question m'est posée, mais c'est le livre a pas mal remanié le manuscrit de la thèse. J'ai changé aussi un petit peu l'angle, puisque finalement, j'interroge plus la formation de l'ordre capitaliste extractif que la formation de l'État à proprement parler, même si les deux sont finalement assez indissociables. Mais donc cette thèse de sciences politiques, effectivement, elle part d'une perspective assez foucauldienne sur la compréhension de l'exercice du pouvoir, mais une perspective foucauldienne qui m'a amené à pousser jusqu'au bout la logique de micro, c'est-à-dire aller faire de l'ethnographie et passer du temps dans les villages, à vivre pendant des mois pour voir comment au quotidien s'exercent ces rapports de domination très ambivalents, très complexes à aborder entre ce monde industriel et les sociétés environnantes. Et finalement, la question que j'ai posée dans la thèse et qui est reprise de manière générale dans le livre, c'est celle de la contribution de l'extraction des ressources naturelles ou de la marchandisation de la nature amazonienne la contribution de cette marchandisation, mais aussi la contribution des contestations qui surgissent face à cette marchandisation, contribution à la formation de l'ordre à la fois politique, national, de l'État péruvien, mais aussi de l'ordre économique dominant, c'est-à-dire celui de l'économie de marché, des rapports salariaux, du capitalisme extractif, dans un territoire que l'on pourrait dire aux marges de l'État. Alors, sans vouloir réifier cette métaphore géographique, hein, ce n'est pas une marge qui existe en soi, elle a été construite par l'histoire coloniale, puis l'histoire nationale péruvienne. Et effectivement, quand on regarde Andoas, bah, c'est un territoire qui est de fait à la frontière avec l'Équateur, une frontière qui a été mouvante. Hein. Pendant longtemps, c'était un territoire équatorien qui a été disputé par le Pérou. Dans une région amazonienne qui, à la différence de l'Amazonie brésilienne, faut l'avoir en tête, est séparée de la capitale par la barrière andine. Ce qui fait que, en fait, paradoxalement, l'Amazonie brésilienne, bon, elle est extrêmement vaste, elle n'est pas forcément mieux connectée, mais en tout cas, toute la déforestation et le développement de l'agro-business ont été facilités par le fait que bah, la pénétration par des routes est quand même rendue plus faisable que dans les Amazonies andines, telles que celles du Pérou ou de l'Équateur, par exemple. Ça clignote un petit peu en face, mais on va y arriver.
Ça clignote pas du tout. Donc,
si vous, c'est bon.
Sur l'écran,
oui, je peux faire ça. Ou... Oui. Non, mais tout va bien. Tout va bien. Alors là, l'introduction, le livre, l'introduction que j'ai entièrement réécrite avec l'aide des personnes qui m'ont accompagnée dans la publication de ce manuscrit, s'ouvre sur la journée d'une femme que j'ai appelée Lola. Qui est une femme chez qui j'ai vécu pendant plusieurs mois, une femme qui habite Andoas, qui elle-même ne se catégorise pas comme quechua, parce qu'en fait là on est en territoire quechua, c'est-à-dire que c'est des personnes qui parlent souvent quechua et qui se catégorisent comme quechua. Je reviendrai peut-être si j'ai le temps sur la genèse de cette catégorie en Amazonie, parce que vous savez peut-être que le quechua c'est plutôt une langue andine a priori. Et donc cette femme se dit non pas quechua mais métisse, parce qu'en fait elle vient d'un village amazonien rural, ce qu'on appelle des, je ne sais plus comment on appelle ça, des communautés riveraines, enfin bon bref, ça ressemble beaucoup à des communautés natives autochtones, mais on y parle espagnol, et finalement il y a une sorte de métissage dans les pratiques quotidiennes dans ces villages, et j'ai décidé d'ouvrir l'introduction sur une journée de Lola, parce qu'en fait, c'est une journée où on la voit partir d'abord, se lever à l'aube et aller chercher du manioc dans la forêt. Alors là, j'ai mis des photos, ce ne sont pas des photos de Lola, ce sont d'autres femmes, alors qui peuvent induire en erreur, mais en fait, Lola, on la voit partir dans la forêt, donc non pas en pirogue, mais à pied, parce qu'elle traverse la piste d'atterrissage qui sépare la communauté native de Andoas de la forêt, où elle a sa parcelle, où elle cultive du manioc. Et là, elle va récolter son manioc, elle le ramène, elle l'épluche, comme on peut le voir là donc cette femme sur la pirogue qui s'appelle Magdalena. Elle l'épluche, elle le met à bouillir dans une grande marmite qu'elle pose dans sa cuisine, qui est faite, en fait, c'est un brasero qui est fait à partir de vieux bidons de pétrole qui ont été scindés en deux et qui ont été placés sur des pieds soudés par son mari, dans une maison qui, en fait, ne ressemble pas du tout à ces maisons qu'on voit à l'écran. Ça, c'est des maisons que j'ai prises en photo dans une communauté native qui est assez éloignée du site pétrolier, un endroit où j'ai fait du terrain pour prendre un peu la mesure aussi des différences en fonction des communautés. Dans les communautés voisines du site pétrolier, on a au contraire des maisons qui sont de briques et de brocs, fabriquées aussi avec des bouts de bidon, avec des bouts de plastique, avec de la géomembrane, qui est un matériau qu'on utilise pour isoler les polluants toxiques du reste de l'environnement quand il y a des déversements de pétrole, par exemple. Et donc sa maison est faite un peu tout ça. Elle allume d'ailleurs son brasero en arrachant un morceau de plastique de géomembrane auquel elle met feu pour mettre le feu à son bois. Voilà, donc toute une série de matériaux récupérés, plus ou moins toxiques, sur lesquels elle fait bouillir ce manioc pour en faire de la bière de manioc, c'est-à-dire ce qu'on appelle le masato, qui est une bière vraiment traditionnelle de la région, dont la responsabilité revient à la femme qui fait bouillir le manioc, qui en mâche des petits morceaux pour les recracher dans cette purée, ce qui permet de faire fermenter le manioc et de lui donner un certain degré d'alcool. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que Lola, elle prépare ce masato pour une assemblée d'autochtones qui sont venus protester contre la pollution pétrolière. Donc jusque-là, on est vraiment dans la logique de la contestation indigène. Sauf qu'au lieu d'amener elle-même ce masato au local pour abreuver les manifestants, elle cherche sa fille de le faire parce qu'elle doit cuisiner pour des ouvriers autochtones qui viennent déjeuner chez elle. Puisqu'en fait, elle est non seulement habitante de cette communauté, mais elle est aussi la femme d'un gérant d'une de ces entreprises communales dont je vous ai parlé, c'est-à-dire une entreprise gérée par la communauté native, et qui, donc son, en fait, son époux, il s'occupe de gérer la main-d'œuvre et de s'assurer que cette main-d'œuvre soit nourrie. Donc elle doit préparer un repas et le mettre dans des tupperwares pour que ce soit envoyé sur le lieu de travail de ces hommes ouvriers qui sont dans la forêt en train de travailler à la maintenance des installations pétrolières, dont la pollution est l'objet de la mobilisation. Voilà. Donc là, on voit justement cette intrication de logique sociale, de contestation, de cohabitation pacifique autour de la journée de Lola, et je trouvais que c'était intéressant d'ouvrir le livre là-dessus pour donner à voir justement ces voies détournées de la violence, peut-être plus douces, mais tout aussi transformatrices en fait, des territoires où se joue l'extraction du pétrole, de l'énergie fossile qui fait tourner l'ordre économique mondial. Voilà, donc j'ai peut-être été un peu long sur cette introduction, mais je voulais vraiment planter le décor de l'intention du livre, c'est-à-dire appréhender finalement le capitalisme au village, d'où le titre, hein, le capitalisme au village, depuis les communautés natives qui sont établies sur les rives du fleuve Pastassa, et comprendre finalement comment ce capitalisme, c'est à plusieurs égards un capitalisme que j'ai essayé de qualifier comme par appropriation, c'est-à-dire c'est à la fois un capitalisme qui va s'approprier bien sûr des ressources naturelles, des moyens de production qui sont privatisés, qui va s'approprier un travail qui est exploité, mais c'est aussi un capitalisme qui se matérialise dans les villages à travers l'appropriation de cet ordre économique par les habitantes et les habitants. La manière dont, dans leur quotidien, ils vont intégrer certaines manières de faire, certaines formes d'organisation économique et finalement la rendre possible, rendre cet atterrissage de l'ordre économique possible dans l'Amazonie péruvienne. Alors le livre est construit et reconstruit, parce que la thèse comptait 9 chapitres, le livre en compte 11, et puis ils ne sont pas dans le même ordre, enfin, il y a vraiment eu un travail de réécriture, et là je vais essayer de vous restituer de manière relativement synthétique et sans tout vous dire non plus le propos du livre, que en y réfléchissant je me dis, en fait finalement la façon dont je l'ai réécrit, il y a vraiment 4 temps qui pourraient être vus un peu comme en spirale ou en balancier. Un premier temps qui parle vraiment, qui part de la situation de rencontre entre ces personnes qui habitent la forêt amazonienne et celles qui aspirent à l'exploiter et à la contrôler. Et donc je pars de cette situation-là pour comprendre, pour mettre en énigme finalement la mobilisation, donner à voir le fait que ces mobilisations ne sont pas si évidentes que ça, qu'il y a toute une série de techniques, de gouvernement des conflits, de pacification, de discipline, qui finalement ne rendent pas ces mobilisations si évidentes que ça. Parce qu'à distance, on se dit, des autochtones qui font face à une industrie extractive, forcément, ils se mobilisent. Donc, dans un deuxième temps, j'en viens à cette mobilisation désormais qui est devenue une énigme. Le troisième temps, une fois qu'on a compris l'avènement de ces mobilisations et leur potentiel perturbateur, j'en viens au déploiement d'une toute une politique publique de gestion des conflits sociaux qui s'est institutionnalisée au Pérou de manière assez originale. Et enfin, je reviens dans les villages pour voir comment ces mobilisations et ces logiques de gouvernement des conflits se matérialisent et comment finalement leur issue n'est jamais donnée d'avance, étant donné qu'encore une fois, des logiques locales prévalent parfois dans la compréhension des effets de ces transformations. Alors, du coup, je reviens sur ce premier mouvement de balancier ou de spirale qui est celui de la situation de rencontre, ce que j'appelle parfois dans le livre une situation de rencontre extractive, c'est-à-dire finalement comment des interactions naissent autour de ce grand projet qui est celui de marchandiser la nature amazonienne et d'en contrôler les habitants. Projet qui s'est... qui a existé tout au long de l'histoire coloniale et nationale et ensuite qui a donné lieu à des tentatives ponctuelles et souvent qui ont fait face à un certain nombre de difficultés. Et comment justement ce grand projet de marchandiser la nature, il s'accompagne de stratégies, de logiques, de gouvernement de la frontière. Alors, cet effort de marchandisation de la nature amazonienne, avant le pétrole, on a des plantes, on a la recherche de l'or pendant la colonisation et l'exploration de l'Amazonie, on a aussi beaucoup le caoutchouc à la fin du 19e siècle, en pleine révolution industrielle. Toutes ces histoires variées d'extraction, sans trop vouloir unifier et schématiser ce à quoi elles ont donné lieu, elles se traduisent par des logiques à la fois d'exploration du territoire, de son occupation, de valorisation économique, de la nature amazonienne, mais aussi de différentes logiques de discipline de la population, que ce soit par sa mise au travail. Alors là, c'est quelque chose qui a beaucoup été analysé par les historiennes et historiens de l'Amazonie sur les logiques de travail contraint, forcé, plus ou moins réduit en esclavage des autochtones à l'époque, dans le cadre de l'économie du caoutchouc, et comment ça a pu contribuer aussi à leur sédentarisation et à leur acculturation à l'économie de marché à la fin du 19e siècle. Donc mise au travail, mais aussi sédentarisation de ces personnes. Et de fait, quand on regarde... le pétrole qui fait l'objet d'un nombre croissant de prospections, les gisements qui sont découverts dans les années 70 et qui commencent à être exploités, ça correspond, ça coïncide avec l'institutionnalisation des communautés natives dont je vous parlais, c'est-à-dire la création de ce statut légal qui reconnaît un certain nombre de droits aux populations autochtones, mais aussi finalement encourage leur sédentarisation, leur fixation dans un espace délimité par l'administration péruvienne. Et donc c'est dans cette perspective-là que j'appréhende le développement de l'extraction pétrolière à Andoa. C'est surtout la forme qu'il prend quand le lot 1AB, donc ce polygone que je vous montrais tout à l'heure sur la carte, est repris par une compagnie multinationale basée en Argentine qui s'appelle Plus Pétrole en 2000, après 27 ans d'exploitation par une compagnie américaine, nord-américaine, quand Plus Pétrole reprend l'exploitation du lot 1AB et quand elle commence à faire face à des premiers signes de contestation, elle met en place un service dit de relations communautaires. Elle recrute des sociologues, des anthropologues, des gens qui sont censés savoir comment interagir avec des autochtones pour déployer toute une série de stratégies pour pacifier au quotidien les relations avec les populations environnantes. Et c'est là qu'elle commence à mettre en place ses politiques d'accès à l'emploi et à promouvoir cette fameuse entreprise communale qui est progressivement appropriée par les villageois. Alors j'analyse dans le livre notamment comment est-ce que certains hommes, parce que ce sont tous des hommes, étaient plus ou moins disposés, plus disposés que d'autres à devenir entrepreneurs, à se saisir de cette entreprise communale, à la promouvoir auprès de leur entourage, à les convaincre que oui, ça peut être intéressant de créer une entreprise pour devenir ouvrier. Et donc progressivement, tous les villages qui entourent le lot 1AB se sont dotés de leur propre entreprise communale, ce qui fait qu'on a dans chaque village des dizaines d'hommes qui travaillent de manière rotative comme ouvriers, mais aussi, donc là sur les photos, on voit en bas à gauche les deux qui sont, je crois, frères de mémoire, qui sont ouvriers. À droite, on a un ouvrier qualifié qui a été formé à l'usage de la tronçonneuse et donc qui se charge de certaines tâches. Et en haut à gauche, on a le contremaître qui, lui, à ce moment-là, est en train de remplir des formulaires, prendre des notes, qui a un talkie-walkie, etc., qui a un certain statut, qui gagne mieux sa vie et qui est responsable, qui exerce une certaine autorité sur ces groupes d'ouvriers. Concrètement, c'est des groupes d'une douzaine de personnes qui vont être chargées de différentes tâches. Alors souvent, ça va être de prévenir des ruptures de tubes en aménageant l'espace, ou ça de couper la végétation, parce que la végétation sans cesse repousse et menace en fait d'oxyder, de créer des problèmes dans la production. Et je voulais revenir sur un moment de terrain intéressant pour comprendre qu'est-ce qui se met en place en fait, de quelle manière est-ce que cet ordre capitaliste qui existe formellement dans la structure d'une entreprise, il se matérialise dans l'organisation du travail de ces personnes. Un jour où j'accompagne ces ouvriers, parce que c'est tous des hommes, comme tous les jours, le contremaître commence la séance de travail par ce qu'ils appellent le quart d'heure de sécurité. Enfin voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les industries. Et il essaye de rendre son speech un petit peu participatif. Alors, il part d'un sigle, le sigle STOP. Il dit, alors, le sigle STOP, qu'est-ce que ça veut dire? Vous le savez. Alors, ils sont là, non, je sais pas. Tiens, c'est cousu là, ils rigolent, ils font des blagues. Mais personne ne sait ce que veut dire le sigle STOP. Le contremaître s'agace un peu. Et puis, au bout d'un moment, il laisse tomber. Il dit, bon, allez, voilà, c'est ça ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui. On arrête. Au boulot, mais peut-être avant de se mettre au boulot, est-ce que l'un d'entre vous a amené du masato? Donc le masato, la fameuse bière de manioc préparée, Lola. Et l'un d'entre eux, qui était l'infirmier du groupe, dit « Oui, moi j'ai ramené un seau de pâte de masato, donc une pâte qu'il faut mélanger à de l'eau. Ma femme m'a donné ça ce matin. » Donc, il sort le seau avec la pâte de masato. Donc, c'est vraiment la espèce de purée un peu alcoolisée que je mélange avec de l'eau. Parce que comme je suis la seule femme présente et que c'est les femmes qui s'occupent de donner à boire, d'abreuver les hommes au masato, on me tend le seau, on le mélange à de l'eau. Et puis, on me tend un casque d'ouvrier, donc de sécurité, dans lequel verser le masato pour le servir aux hommes. Parce que normalement, on a une calebasse. Mais là, à défaut de calebasse, on utilise un casque de sécurité. Une fois le masato terminé, les hommes se mettent au travail, tout va bien. Et le contremaître me dit « Bon, bah, je vais quand même planquer le seau derrière un buisson, parce qu'on ne sait jamais, un ingénieur de plus pétrole pourrait toujours venir et on n'est pas censé trop consommer d'alcool sur le lieu de travail. » Donc voilà. Et j'en parle plus tard à un responsable de l'entreprise communale plus haut placé. Enfin, je ne raconte pas la scène en question, mais je lui demande est-ce que c'est autorisé la consommation de masato quand on va travailler ? Parce que quand on va travailler en forêt, faire des tâches habituelles, la consommation de masato, c'est quelque chose d'habituel, parce que c'est quelque chose d'extrêmement nourrissant, au-delà du fait d'être très énergétique. Et il me dit, en principe, non, mais bon, on ferme les yeux dessus. Et je trouve que cette anecdote, elle est assez intéressante, parce qu'on voit comment finalement tout cet ordre extrêmement hiérarchisé, cette sécurité industrielle, qui est souvent porteuse d'injonctions à la discipline, d'individualisation des risques professionnels, etc., ben finalement, elle est réappropriée dans un sens collectif qui outrepasse les hiérarchies, les statuts de l'organigramme de l'entreprise communale, parce que ce contremaître, c'est aussi un cousin, un voisin, un beau-frère, un frère des personnes dont il a la responsabilité. Et voilà, et finalement, cet ordre de travail industriel qui se met en place dans la forêt, c'est un ordre qui va pomper aussi dans des logiques sociales propres à la communauté native. Et c'est cette hybridation-là qui permet finalement aux personnes de s'approprier l'ordre de l'entreprise communale et de se l'approprier au point de le faire exister dans les villages et pas seulement sur les lieux de travail. Donc ça, c'est des photos d'une communauté native où j'ai vécu quelques mois, qui est l'une des communautés natives les plus quechua, où les gens parlent quechua au quotidien. Il y a une cinquantaine de maisons de mémoire, elle est relativement petite, elle s'appelle Kapawari. Et tout en étant très quechua, l'entreprise communale occupait une place centrale. Donc là, c'est des photos. La photo à gauche, c'est une photo qui est prise sur la place centrale du village, c'est-à-dire juste à côté du terrain de foot. Et on voit justement ces panneaux enjoignant à porter les équipements de sécurité, y compris au cœur du village. Quoi. Et ces équipements de sécurité, ils sont présents, par exemple, quand les hommes vont utiliser ces uniformes ou ces casques pour aller récolter du manioc dans la forêt. Il y a une importation de logique d'organisation d'artefacts matériels dans la vie du village, hors économie pétrolière, où, par exemple, en haut, les bidons, là, donc non dangereux réutilisables, dangereux non réutilisables ou non réutilisables. Donc, c'est un système de tri des déchets qui est inspiré de la façon dont l'entreprise pétrolière elle-même revendique trier ses déchets. Et ce tri des déchets, il est pris en charge par l'entreprise communale et il permet de créer des emplois pour les personnes les plus fragiles, notamment pour les personnes âgées. Donc, c'est un vieux du village, en fait, qui s'occupait de décharger ce qui était dans ces bidons, tout ensemble dans une même brouette, qui finalement était déchargée dans une clairière, sans qu'il y ait véritablement de tri des déchets. Mais formellement, il y avait cet effort de reprendre un peu l'ordre hygiénique qui est mis en place par l'entreprise pétrolière. Voilà, donc ça, c'est un petit peu sur cet ensemble de premiers chapitres sur l'ordre social économique qui se met en place avec la marchandisation de la nature et qui finalement est assez ambivalent puisque il s'inspire aussi de logiques sociales propres aux communautés natives. Une fois qu'on a vu ça, qu'on a vu cette appropriation habitante, cette appropriation amazonienne d'un ordre capitaliste, extractif, etc., on comprend que les mobilisations autochtones, elles ne sont pas si évidentes que ça, puisque finalement, ces habitants, de plus en plus, ils se revendiquent comme ouvriers, ils célèbrent le 1er mai, ils ont une certaine fierté à travailler dans ces installations. Et de fait, moi, quand j'étais sur place, j'ai souvent perçu, et j'y reviendrai plus tard, hein, mais une certaine distance de beaucoup d'habitants à la Fédération Quechua, à cette organisation qui a mené les premières mobilisations contre la pollution causée par l'extraction pétrolière et toutes les injustices que cette pollution révèle quand j'ai commencé mon terrain. Donc c'est cette énigme-là à laquelle je m'attelle ensuite dans les chapitres suivants, puisque quand j'arrive pour la première fois en 2012 sur le terrain, donc c'est pas facile d'arriver sur ces terrains, il n'y a pas de compagnie commerciale qui propose des billets pour remonter en bateau la rivière, il faut négocier l'accès au terrain à travers des personnes qui s'y rendent, qui ont un bateau, qui sont équipées. Et moi, je le négocie à travers Andrés, donc un leader autochtone quechua, et des salariés d'ONG péruviens qui l'accompagnent et qui me mettent en contact avec lui. Et Andrés, donc en, je ne sais plus, je crois que c'était en avril 2012, quelque chose comme ça, quand je l'accompagne, il est en train d'organiser sa toute première mobilisation qui donne lieu à ces, voilà, par exemple, ces moments que j'ai pris en photo. Ça, c'était en juin 2012. Donc, en fait, il a réussi à rassembler des centaines de personnes qui habitaient dans des villages établis sur les rives du fleuve Pastaza. Il a ramené un énorme bateau et ces personnes sont remontées dans une communauté proche du site pétrolier et ont menacé, en fait, d'envahir les installations si l'État n'envoyait pas des ministres, je crois qu'il demandait même la venue du président pour entendre leurs revendications. Alors, le président n'est pas venu, mais il a quand même fait envoyer sa femme, le ministre de l'Énergie et des Mines, le ministre de l'Environnement. Donc, il y avait en fait un vrai enjeu de contrôler la situation, éviter que ça ne dégénère, parce que c'était déjà arrivé quelques années auparavant. Il y avait eu un officier qui avait été tué lors d'une mobilisation qui était beaucoup moins cadrée, en fait. On pourra y revenir si ça vous intéresse. J'en reparlerai peut-être un petit peu. Cette mobilisation qui a lieu, elle a lieu alors qu'en fait, un certain nombre de personnes travaillent, maintenant on l'a compris, dans les installations pétrolières et on pourrait s'attendre à ce que, dès lors qu'elles y travaillent, elles ne souhaitent pas participer à ces mobilisations. L'énigme, c'est aussi le fait que la Fédération Quechua elle-même, donc la Fédération, c'est-à-dire l'organisation qui est à la tête de cette mobilisation, initialement, à sa création, elle n'avait pas vocation à encadrer des mobilisations. C'est pas des organisations qui sont créées pour contester, c'est des organisations qui sont créées pour assurer une intermédiation entre les communautés natives et l'administration péruvienne, par exemple pour demander l'envoi d'instituteurs, d'institutrices, pour mettre en place des centres de santé, pour demander des politiques publiques adaptées à ces communautés natives, mais de manière très locale. Et donc, là, c'est une analyse finalement assez classique de sociologie des mobilisations où j'essaie de déconstruire la naturalité, l'évidence de ces contestations. Et je regarde d'abord comment certains leaders, plus que d'autres, viennent de familles respectables localement, avec des chefs qui sont consultés quand il y a des conflits, avec des frères instituteurs, avec des personnes qui ont reçu une certaine formation scolaire. Et le président de la Fédération Quechua, lui, sa spécificité, c'est aussi qu'il a travaillé pour le compte d'un commerçant. Et donc, il est connu un peu de tous les villages parce qu'il est allé de village en village vendre des marchandises. Et il dispose d'une certaine légitimité locale. En même temps, il a fait la rencontre de ses salariés d'ONG, souvent pour certains d'entre eux, des hommes qui ont été formés au Parti communiste ou dans d'autres organisations de la gauche, l'extrême gauche péruvienne dans les années 80-90, et qui, dans le contexte, à l'issue du conflit, avec le Sentier Lumineux et la stigmatisation très forte de la gauche, qui est potentiellement toujours suspectée d'être terroriste au Pérou, se sont reconvertis dans l'accompagnement de mobilisations autochtones, de mouvements indigènes. Et c'est avec la survenue de ce conflit dont je vous parlais, qui a eu lieu quelques années avant, donc en 2008, où en fait des hommes et des femmes se mobilisent, mais pour demander une augmentation du salaire des personnes qui travaillent sur le site pétrolier. C'est pas cadré dans les termes écologiques de la lutte autochtone environnementale. Donc il n'y a pas de presse sur place, la police tire, et finalement c'est un manifestant non identifié qui abat d'un tir de fusil un officier pendant la mobilisation. Et à la suite de cet affrontement violent avec la mort d'un officier, a lieu un procès avec 27 inculpés, qui sont des 27 personnes identifiées comme leaders. Et c'est pour ce procès que la Fédération Quechua est sollicitée pour assurer la défense de ces personnes qui n'avaient pas fait appel à elle au moment d'organiser la mobilisation. Et c'est dans le cadre de ce procès que, progressivement, Andrés et la Fédération Quechua se politisent et adoptent ce rôle de leader de la contestation et de mobilisation de ce qui est désormais présenté dans la presse comme le peuple quechua. À la suite de cette mobilisation de 2012, en fait, il y a des mobilisations à peu près tous les ans, donc je vais pas y revenir, mais celle-là, elle est intéressante parce qu'elle a lieu quelques années avant que la concession du lot 1AB parvienne à expiration et que le contrat doive être renégocié. Et cette mobilisation, elle donne lieu à l'ouverture d'une commission multisectorielle, elle est intitulée, pour répondre à leurs revendications, traiter leurs revendications. Mais c'est aussi un moment où le ministre de l'écologie annonce que pour la première fois, et ça il l'annonce en grande pompe, on va mettre en place au Pérou ce qu'on appelle la consultation préalable. La consultation préalable, c'est un droit reconnu par l'Organisation internationale du travail spécifiquement aux peuples autochtones pour toutes les mesures qui sont susceptibles de les affecter, toutes les politiques publiques, les concessions, etc. Et qui n'a jusque-lors pas été mis en place au Pérou, alors même qu'il s'agit d'une convention de l'OIT qui a été ratifiée depuis, à l'époque, 20 ans presque, par le gouvernement péruvien. Et donc, pour la première fois, à l'issue de cette mobilisation, cette consultation préalable est annoncée et elle commence à se mettre en place alors que moi, je fais du terrain. Ce qui m'amène, en fait, à ce troisième temps, c'est-à-dire à la suite de cette mobilisation, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, du côté de l'État, des ministères péruviens, on a toute une série de savoir-faire et de dispositifs de gouvernement des conflits qui se met en place, qui s'active, qui se met en œuvre et qui donne à voir un processus d'institutionnalisation d'une politique de gestion des conflits sociaux, mais aussi de professionnalisation de certains fonctionnaires qui, de plus en plus, s'appellent des conflictologues, c'est-à-dire des spécialistes dans la gestion des conflits sociaux, qui reçoivent des formations spécifiques, il y a tout un langage, il y a des ressources, il y a des formations qui sont financées par le programme des Nations Unies et pour le développement, par exemple. Et voilà, il y a tout cet arsenal de savoir-faire que j'analyse en lien aussi avec l'histoire de sortie du conflit avec le Sentier Lumineux, c'est-à-dire qu'il y a voilà, tous les travaux de Sandrine Lefranc sur la pacification des sociétés, avec des personnes que j'ai rencontrées, qui ont été formées aux États-Unis à la pacification de conflits civils, et qui finalement réinvestissent ce savoir-faire dans la pacification des conflits sociaux. Et où ça devient tout un marché de l'emploi pour des fonctionnaires et pour des consultants qui vont former ces fonctionnaires et qui en vivent bien. Et donc ce marché, justement, il est activé, il est mis en place pour gérer des conflits comme celui auquel j'assiste autour de Andoas. Et donc on voit en œuvre, moi j'ai vu à l'œuvre dans toute une série de réunions, plus ou moins ouvertes, plus ou moins publiques, plus ou moins théâtralisées, on voit à l'œuvre ces conflictologues et toutes ces techniques de gestion des conflits auxquelles on les a formés. Et alors ce qui se joue, alors notamment dans l'ouverture de cette première consultation préalable à laquelle j'assiste, et je raconte dans le livre notamment une journée, deux journées en particulier qui sont censées lancer le processus de consultation préalable qui permettra donc la renégociation du contrat, la poursuite de l'extraction à Andoas. Ce qu'on voit d'abord, c'est que il y a tout un, c'était beaucoup travaillé par la sociologie des dispositifs participatifs en sciences politiques, il y a toute une logique d'appropriation gouvernementale de ces dispositifs participatifs. C'est des échanges qui sont scénarisés, on essaye de contrôler la manière dont la parole va s'exprimer, de manière à déconflictualiser les échanges, à en contrôler l'issue, à limiter la formulation de doléances trop radicales. Mais en même temps, donc ça c'est des choses déjà très, très bien observées dans plein de terrains et de situations différentes, en même temps ce qu'on voit c'est aussi que les personnes qui sont appelées à participer à ce dispositif, à être consultées, ce sont quand même des leaders autochtones qui ont participé à des mobilisations, qui ont été politisés, etc., et qui ont cette capacité à réintroduire du conflit dans des espaces qui sont pensés par les fonctionnaires comme des espaces de pacification. Et donc on les voit notamment refuser la consultation préalable et la conditionner à la satisfaction de leurs revendications sur des activités actuelles et passées avant de réfléchir à une extraction future avec la renégociation du contrat de la concession pétrolière. Donc réintroduction du conflit, mais en même temps, quand on passe du temps sur place, on voit que derrière cette réintroduction du conflit, tout aussi théâtrale que la mise en avant d'une volonté de dialoguer de la part du gouvernement, on a en coulisses toute une série d'interactions informelles entre salariés d'ONG, leaders autochtones et fonctionnaires. Parce qu'en fait, à force de se croiser tout le temps à l'hôtel, au bar, etc., parce que c'est des rencontres qui ont lieu dans des endroits, par exemple, parfois c'est dans des communautés natives, et donc tout le monde est logé à la même petite auberge de la communauté native. Parfois c'est à Iquitos, c'est quand même une petite ville régionale, et en fait, vous avez des salariés d'ONG contestataires, mais qui, à certains moments, ont pu être des collègues de ces hauts fonctionnaires qui, eux-mêmes, sont parfois recrutés dans d'anciennes associations écologistes. Et donc, là, on a des interactions plus officieuses, plus discrètes qui se jouent et qui contribuent à la fois à certaines transformations de l'action publique environnementale au Pérou. Par exemple, il y a eu la création d'une autorité indépendante pour évaluer les études d'impact environnemental, qui autrefois était évaluée par le ministère de l'Énergie et des Mines. On se doute qu'il y avait un petit conflit d'intérêts dans cette procédure-là. Et inversement, des choses assez classiques aussi déjà observées professionnalisation de l'action militante, d'institutionnalisation, de le fait que l'action militante s'organise de plus en plus sur les, en fonction des temporalités et des espaces de l'action gouvernementale. J'en viens enfin au quatrième temps de ce mouvement de balancier que j'ai mis en place avec ce livre, qui est un moment de retour dans les villages. Maintenant qu'on a compris comment se mettait en place une mobilisation malgré la socialisation, l'ouvriérisation des habitants, qu'on a compris qu'il y avait des logiques de toute une politique de pacification des conflits sociaux qui se met en place et qui finalement a des effets assez ambivalents. Qu'est-ce qui se passe dans les villages ? De quelle manière est-ce que ces transformations, elles peuvent se traduire dans le rapport qu'ont les habitantes et habitants, au-delà des leaders, à l'ordre extractif, à l'État péruvien, etc. Et donc, voilà, par exemple, ça, c'est ces deux photos qui sont dans le livre, hein, où on voit d'un côté, on est derrière Andrés, en fait, qui fait face à l'Assemblée mobilisée. Donc ça, c'est une photo, c'est des photos qui sont prises en 2014. Et puis finalement, la perspective des personnes qui sont dans l'Assemblée et qui voient ces mêmes leaders prendre la parole, c'est ça que j'essaie de développer dans ces derniers chapitres. En montrant finalement que quand on reste longtemps dans les villages, ce qui n'est pas le cas des leaders. Les leaders, de plus en plus, ils sont, je vous l'ai dit, il y a une institutionnalisation de la contestation. Donc ils sont le plus souvent à Iquitos, à Lima, et même Andrés, moi, pendant que j'étais à Capawari en train d'accompagner les gens dans la forêt ou sur leur lieu de travail, lui, parfois, il était à New York en train de plaider la cause de son peuple auprès du forum permanent des questions autochtones de l'ONU. Donc c'est vraiment des rapports à l'espace extrêmement, extrêmement différents. Et dans ces villages, quelques mois avant cette mobilisation de 2014, par exemple, moi j'entendais souvent des gens dire « Non mais moi je participe pas, cette mobilisation c'est pas la mienne, c'est celle de Andrés, de la Fédération Quechua. La Fédération Quechua elle est basée dans un village plus en aval, c'est des gens qui sont plus loin de l'extraction pétrolière, qui ne sont pas directement concernés. On devrait être ceux qui touchent les bénéfices de la pollution, c'est-à-dire les emplois qui sont créés et qui sont perçus comme une forme de juste compensation de l'impact écologique. » Voilà, donc toute une série de rivalités que j'analyse à la fois à l'échelle villageoise, donc c'est là que je rentre dans des analyses de parenté, où je me suis même amusée à faire des arbres de parenté qui n'apparaissent plus dans le livre, mais qui apparaissent dans la thèse, et qui apparaissaient d'ailleurs dans la présentation il y a 10 ans, et où j'ai croisé ces analyses de parenté avec les pratiques religieuses et résidentielles des personnes pour montrer qu'en fait il y a des clics, il y a des factions villageoises qui se matérialisent dans des alliances matrimoniales qui ne sont pas les mêmes, dans des proximités familiales, dans des rapports à l'évangélisme, et qui permettent de comprendre que certaines soutiennent l'action de la Fédération Quechua, participent aux mobilisations, se font les porte-parole d'Andrés quand lui il est à New York, et d'autres le critiquent dans son dos. Donc analyse au sein des villages, avec ces arbres de parenté, etc., mais aussi analyse entre les villages pour voir comment certains villages du Haut Pastaza ont pu, à certains moments, se désolidariser complètement de l'action contestataire de Andrés et, à d'autres moments, le soutenir. Ah oui, alors ça, c'est l'un des schémas qui est repris dans le livre, où on voit justement au sein du village, les différentes lignées en conflit. Je ne rentre pas sur le détail de l'analyse, là, parce que je commence à être un petit peu longue. Et puis ça, c'est une carte qui reprend un peu ces dynamiques amont-aval. Là, je voulais revenir simplement sur, à nouveau, une petite anecdote de terrain qui me semble assez révélatrice, qui est celle des visites de sites pollués. En fait, régulièrement, vous avez des tubes de pétrole qui se rompent parce que voilà, ils sont oxydés, ils sont soumis à de fortes températures, il y a énormément d'humidité, ils sont vieux, ça fait 40, 50 ans qu'ils sont là. Et donc régulièrement, il y a du pétrole qui se déverse dans l'eau, dans les cours d'eau, sur la terre, etc. Et alors là, je voudrais comparer deux visites de sites pollués très différentes. Une première où en fait, j'accompagne Andrés et d'autres membres de la Fédération Quechua et des salariés d'ONG pour aller constater un déversement de pétrole. Et alors qu'on est contrôlé pour la deuxième fois par des... Parce que c'est sur le site pétrolier, donc on doit passer des contrôles, etc. Et à deux reprises, on nous demande notre identité. Et alors la deuxième fois, Andrés s'énerve, et au lieu de donner son nom et son prénom, il dit Quechua et Pastaza. Enfin voilà, une fois qu'on a passé le contrôle, il s'exclame, non mais il y en a marre, c'est mon territoire, c'est pas le leur, ces flics de l'entreprise, ils n'ont pas même demandé mes papiers, etc. Un mois plus tard, j'accompagne des présidents de communautés natives, donc de la communauté native de Capawari, là où j'habitais, où l'entreprise communale est centrale, etc., constater un déversement de pétrole sur le territoire de la communauté native de Capawari. Et là, à nouveau, on est contrôlé, on doit donner notre identité. Alors, on ne nous demande pas de montrer nos papiers, mais voilà, on doit quand même donner notre identité au vigile, à l'employé de sécurité privée de la compagnie pétrolière, donc plutôt de l'entreprise sous-traitante de la compagnie pétrolière. Et une fois qu'on a décliné nos identités et qu'on repart, je demande aux personnes avec qui je fais le voyage, pourquoi est-ce qu'ils nous demandent notre identité? Et alors là, la raison qu'on me donne est tout autre. On me dit, bah non, mais en fait, il fait son boulot, il est là comme nous. Nous, on vient, on va constater un déversement de pétrole en tant que président de comité natif. Bah lui, il est salarié de cette entreprise sous-traitante et son boulot, c'est demander notre identité pour vérifier que tout se passe bien et vérifier qu'il n'y a pas n'importe qui rentre sur le site pétrolier, tout va bien. Et en fait, si on va constater avec ces présidents de communautés natives le déversement de pétrole, c'est parce que ça a été vérifié par l'expérience. Ils se sont rendus compte que quand ils se mobilisent contre un déversement de pétrole de manière ponctuelle et qu'ils arrivent à le faire reconnaître par l'État, l'État à plusieurs reprises a fait pression sur la compagnie pétrolière pour qu'elle procède à des travaux de restauration. Et ces travaux de restauration, elle les commande auprès des entreprises communales, ce qui fait que ça crée des emplois pour les habitants. Et finalement, et c'est dit explicitement dans la manière dont ils en parlent, c'est combien est-ce qu'on va demander pour ce déversement de pétrole et combien d'emplois on espère obtenir avec les travaux de restauration. Et là, on voit comment des visites de sites pollués, finalement, elles donnent lieu à des logiques très différentes, mais qui peuvent converger autour d'une même stratégie, qui est celle d'une même action, qui est celle de dénoncer, en fait, l'impact environnemental de l'extraction pétrolière. Voilà, donc pour conclure rapidement, parce que je crois même que j'ai...
Oh non, tu as largement le temps.
Non, mais parce que c'est bien aussi que si vous avez des questions, même pour avoir aussi le temps d'écouter Maurice. Sa discussion qui, je pense, sera super intéressante. Ça, c'est une dernière... un petit coup de pression. Ça, c'est la dernière slide où finalement, c'est un peu la slide qui résout tout. On comprend comment, malgré toutes ces ambivalences, il y a effectivement une mobilisation relativement unitaire parce que ces entreprises communales qui espèrent obtenir des emplois en dénonçant les dommages écologiques causés par l'industrie pétrolière, elles jouent de plus en plus, au moment où je fais du terrain, un rôle de recrutement à la mobilisation. Et notamment, elles ont les responsables de l'entreprise communale de Andoas et Kapawali en 2014 ont indiqué à leurs salariés qu'ils feraient grève. C'est-à-dire, c'est les chefs qui ont demandé à leurs salariés de faire grève pour participer à la mobilisation et remplir le local. Et donc là, on voit ce local qui a été construit par l'entreprise communale de Andoas, dont la construction a été hâtée pour qu'il soit prêt à temps pour la mobilisation. Toute une série de travaux, de tâches logistiques qui sont assurées par l'entreprise communale pour que, voilà, un groupe électrogène pour que le micro puisse, parce qu'il n'y a pas d'électricité dans ces communautés, donc un groupe électrogène pour que la parole des personnes sur la tribune soit amplifiée par micro pour l'ensemble de l'Assemblée. Il y a l'électricité pour éclairer la salle une fois qu'il fait nuit. Et il y a une série de... tout un ordre qui se met en place. Tout le monde doit venir dans le local communal avec une lance, avec des peintures de guerre. Même moi, j'avais mes petites peintures de guerre et ma petite lance à l'époque. Et en même temps, c'est un ordre très ambivalent qui s'exprime, qui est à la fois un ordre contestataire, mais aussi un ordre national. Parce qu'en fait, très souvent, ces hommes-là, c'est des réservistes, c'est des personnes qui ont fait leur service militaire et qui, là, on le voit, c'est pendant cette mobilisation 2014, elle coïncide avec le jour national du drapeau. Et donc, pendant le temps de quelques heures, les manifestants, les participants à la mobilisation s'interrompent, invitent des salariés du site pétrolier pour venir célébrer le drapeau péruvien dans la communauté native et font ce défilé au pas de loi qu'ils ont appris lors de leur service militaire et où ils défilent en tant un peu... Voilà. Alors, à la fois en tant que péruviens, soldats, mais aussi indigènes avec leur peinture de guerre sur le torse. Donc pour conclure pas si rapidement... ce que je montre finalement dans ce livre, c'est comment l'appropriation capitaliste de la nature, elle repose sur la socialisation à un ordre économique et politique dominant, c'est-à-dire un ordre national et un ordre capitaliste, par des personnes qui habitent ces marges. Mais que ces appropriations locales de l'ordre capitaliste, elles n'excluent pas pour autant la contestation. Et c'est toute cette ambivalence-là, c'est ces nœuds-là que j'ai essayé de dénouer et qui donne à voir une certaine indétermination finalement du capitalisme extractif, de la forme qu'il prend et de sa continuité. Et de fait, et donc là, je fais un petit spoiler de la conclusion, mais parce que ça, voilà, ça, il suffit d'aller regarder pour s'en rendre compte sur Internet, ça fait depuis 2020 qu'on n'extrait plus de pétrole à Andoas. Ouais, parce que on n'extrait plus de pétrole. Alors à la base, à l'origine, c'est à cause de la pandémie et des mesures de confinement qui, au Pérou, les compagnies pétrolières n'ont pas réussi à se faire passer pour des activités de première nécessité, ce qui n'est pas le cas de l'extraction minière en Espagne, par exemple. Mais bon, ça, on pourrait y revenir. Et donc l'extraction sur le site de Andoas s'est interrompue au moment du confinement de 2020. Et à la différence d'autres sites pétroliers, elle n'a pas repris. Parce qu'en fait, on est quand même sur un site qui est exploité depuis le début des années 70, qui était le site, le gisement pétrolier le plus rentable pendant très longtemps, mais qui aujourd'hui, tend à s'épuiser, est de moins en moins productif. Et puis, les tubes qui se rompent tout le temps, ça représente un coût aussi pour les entreprises. Ce qui fait que la nouvelle entreprise qui avait négocié son contrat, en 2015 ou 16, je ne sais plus, quand son contrat est arrivé à échéance, elle n'a pas redemandé l'autorisation d'exploiter le site. Et donc aujourd'hui, il est plus ou moins à l'abandon. L'État péruvien, à travers une entreprise pétrolière d'État, promet depuis des années qu'il va reprendre l'exploitation de ce site, sans y parvenir parce qu'il n'en a pas les capacités opérationnelles, il n'a pas été autorisé par une autre autorité pétrolière à l'exploiter. Donc il faut qu'il... Bon, bref, il y a des problématiques techniques, financières, administratives qui s'opposent à la reprise de l'exploitation du site. Pendant ce temps-là, Plus Pétrole, donc la compagnie qui opérait pendant que j'étais sur le terrain, a liquidé ses actifs et donc a échappé à la prise en charge du coût économique que représente la restauration écologique du site, qui est estimé à 100 millions de dollars, donc un coût qui va revenir en fait à l'État péruvien. Pendant ce temps-là, les substances toxiques, en fait, paradoxalement, continuent de s'accumuler. Le fait de faire fonctionner ces installations, c'est aussi une manière de les maintenir et d'éviter des déversements de pétrole. Maintenant que les installations ne sont plus utilisées, les ruptures de tubes sont de plus en plus fréquentes. Et j'ai plus les chiffres en tête, mais là, le rythme s'est très fortement accéléré des ruptures de tubes par rapport à quand Plus Pétrole extrayait du pétrole. Alors, ce n'est pas pour faire la promotion de cette compagnie, mais de fait, il y a tout un problème qui se pose avec le démantèlement de ces installations, puisque c'est un démantèlement complètement passif, en première ligne duquel se trouvent à nouveau ces populations qui étaient les premières exposées au développement de ces industries fossiles. Voilà, donc c'est pas une conclusion très heureuse, mais c'est une conclusion qui finalement pose des questions qui ne sont pas spécifiques à ce site pétrolier, puisque la question du démantèlement du capitalisme fossile se pose de manière assez globale aujourd'hui, la question de la transition vers des énergies renouvelables aussi. Or, c'est ce sur quoi je travaille en ce moment, là, cette transition vers des énergies renouvelables, si elles sont produites de manière massive, alors non seulement elles génèrent des contestations localement, et je pense que vous êtes un certain nombre à travailler là-dessus ici, mais en plus, elles nécessitent des matières premières, des métaux qui sont extraits et qui donnent lieu à l'ouverture de nouvelles mines et donc de nouvelles activités extractives qui, à nouveau, posent des questions comme celles que j'ai traitées dans ce livre. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Bien. Merci beaucoup, Doris. Alors, sans plus attendre, je passe donc la parole à notre discutant, Maurice Olive, que je remercie au nom de l'Axe et au nom de Mésopolis.
Merci, Jean. Merci de l'occasion de redécouvrir le travail de Doris, que j'ai connu, qui est une redécouverte partielle. Tu l'as rappelé, on avait déjà eu l'occasion de t'entendre à l'occasion du colloque il y a 8 ans, c'est quasiment la date anniversaire, je crois que c'était 15-16 janvier, me semble-t-il, 2016, et qui s'appelait Conflit de lieu de conflit, qu'on avait organisé avec Stéphanie de Chezel à l'IEPEDEX, et qui avait donné lieu à un ouvrage collectif auquel tu avais contribué sur politisation du proche, les lieux familiers comme espace de mobilisation. Et tu nous confiais que c'était ta première communication. Et
ouais,
nous, je te disais aussi, ou une des premières, et je te disais au moment du déjeuner que c'était aussi la première communication, la première proposition qu'on avait reçue. On en avait reçu 72 de mémoire. Et tu étais la première, parce que tu avais répondu très vite, parce que justement, tu partais 3 semaines ou plus sur le terrain, et que tu avais peur de rater les délais, enfin que tu allais forcément les rater. Et on était enchantés à te lire. Et on s'est dit, si tout est comme ça, ça sera formidable. Bon, tout n'a pas été comme ça, mais on en a eu quand même suffisamment de très bonnes pour nourrir ce colloque. Alors, cet ouvrage que tu présentes et que je discute est issu, tu l'as rappelé, au moins en partie, de la thèse. Une thèse et un ouvrage du même coup riche, ambitieux, puisque tu cherches à faire tenir ensemble à la fois l'exploration pardon, de l'activité. De l'activité extractive pétrolière, l'action publique aussi, une politique de soutien de l'État péruvien, et puis les mobilisations qui, à la fois, la contestent et se l'approprient en même temps. Hein. Je pense que c'est un des apports et sans doute aussi une originalité hein, de ton travail. J'y reviendrai un peu après. Mais le livre n'est pas foisonnant, on pourrait le craindre, tu ne te disperses pas. Puisque tu te déploies finalement à la croisée des chemins. Il est beaucoup question de chemin, y compris d'ailleurs finalement dans ton iconographie ou dans les portraits que tu... Il n'y a pas vraiment de chemin, tu l'as dit, enfin au sens en tout cas en dur, puisque c'est l'eau qui est le principal vecteur, mais il est beaucoup question d'accès, de voie, et d'une certaine manière, c'est assez symptomatique de ton positionnement toi-même à la croisée de toutes ces voies. Donc l'ouvrage se déploie à la croisée des chemins pour saisir la manière dont ces politiques et ces activités se matérialisent finalement et interagissent dans le quotidien des territoires et des populations qui les habitent, ce que tu as appelé dans l'ouvrage le capitalisme au village. Et on se retrouve hein, dans cette ambition aujourd'hui. Alors on s'y retrouve à Mésopolis, mais particulièrement dans l'axe 4, saisir la transition par le bas, hein, en regardant de près comment les industries, les autorités, mais aussi les publics s'en saisissent, cherchent à les bloquer ou la faire avancer ou à la dévier. Nous semble, comme toi, assez prometteur. Alors prometteur pour au moins deux choses. Prometteur pour saisir comment se déploient ou se redéploient les politiques industrielles à l'heure de la transition, et puis leurs échelles aussi, évidemment, de gouvernance, mais prometteur aussi pour éclairer des mobilisations qui viennent, alors, tantôt en opposition, tantôt inversement, plutôt en soutien de ces grands projets de décarbonation, et qui, ben, on le voit sur le terrain, naviguent un peu aujourd'hui entre, d'un côté, un espoir de changement, et en même temps, le sentiment un peu désabusé, ou la crainte, en tout cas, que se rejoue, finalement, la même histoire, habillée d'autres mots, ou armée d'autres technologies. Alors, c'est d'autant plus vrai dans le déploiement de parcs éoliens ou photovoltaïques. La situation est un peu plus claire dans le cas des extractions, parce qu'on sait à quel point elles sont nocives pour l'environnement. Ce qui est moins le cas et qui est beaucoup plus difficile du côté des mobilisations à saisir, c'est justement source d'ambivalence aussi, c'est cette industrialisation qui est menée au nom justement de la transition énergétique, mais dont on craint aussi qu'elles peuvent avoir des effets et des impacts sur le territoire à contre-pied finalement de ce qui les valorise et les légitime, quoi, et les justifie en tout cas. Alors un travail riche, trop riche pour en discuter tous les aspects, et c'est d'ailleurs pas l'idée, hein, je pensais plus modestement tirer quelques fils en fait. Pour nourrir la discussion et mettre en miroir ton travail avec des recherches. On aura l'occasion peut-être de le faire, je l'espère en tout cas, dans la discussion, des recherches menées au sein de l'Axe, avec lesquelles, on peut tenter quelques rapprochements ou en tout cas quelques dialogues. Donc trois ou quatre fils. La première, c'est la question du rapport entre industrie et territoire, qui nous préoccupe pas mal. Alors, tu prends tes distances d'emblée avec certaines sociologies. Je pense à la sociologie de la domination, surtout les approches néo-marxistes, hein, qui mettent plutôt l'accent sur des mécanismes assez structurels, hein, de spoliation, de domination, alors que tu constates, hein, à ton tour, évidemment, hein, que tu ne nies pas, mais en tout cas, dans lequel tu ne te retrouves pas complètement dans ce que tu observes et dans ce que le terrain te donne à voir. Ce que tu observes et décris renvoie plutôt à des relations de pouvoir. Tu me diras si tu te retrouves ou pas, mais des relations de pouvoir plutôt que des rapports de domination. Et en ce sens, il me semble que tes réflexions s'inscrivent en partie. Alors, tu parlais de Foucault. Moi, je voudrais tenter des rapprochements un peu moins sexy, voire quasi ringard, et je m'en excuse par avance, mais. Je pense à une autre tradition de recherche en sociologie qui est celle de l'analyse des organisations. Mm-hmm. Ça peut te surprendre. Mais en tout cas, et des relations qu'elles entretiennent avec leur environnement. Hein, ce n'est pas forcément l'étude des organisations en soi, mais plus exactement des frontières et des limites de ces organisations. Alors, tu ne mobilises pas cette littérature, en tout cas peut-être dans la thèse, mais je ne l'ai pas lue, en tout cas pas dans l'ouvrage. Et pourtant, quand je te lis, ce que je lis de toi, en tout cas, fait écho chez moi aux travaux menés dans les années 60-70 autour de Michel Crozier, de l'équipe du CSO, hein, Centre de sociologie des organisations, qu'il a fondé, je crois, en 63, enfin, milieu des années 60, et qui a réussi à agréger autour de lui un certain nombre de chercheurs venant des quatre coins d'Europe de l'Ouest.
Et dont nous recevrons effectivement la directrice.
Alors, je ne sais plus trop ce que fait le CSO aujourd'hui, mais elle nous éclairera. Mais en tout cas, ça a été effectivement dans ces années-là un lieu, un espace qui a permis de brasser un certain nombre de travaux, qui a été vecteur d'une part importante de la sociologie américaine, notamment la sociologie fonctionnaliste des années 40-50 autour de Gundler, Selznick, etc., qui était assez peu connu jusqu'ici en France et qui a été effectivement un vrai laboratoire intellectuel. Et pourquoi ce rapprochement? Parce qu'il me semble qu'ils sont, comme toi, assez attentifs au moins à trois choses. D'abord aux situations. C'est quand même une sociologie des situations, hein, plutôt que des grandes, plutôt que des grandes tendances, aux situations dans lesquelles se déploient au concret des relations de pouvoir. Alors, mais encore une fois, des relations de pouvoir plus que de domination, hein, entendues finalement comme des relations qui certes sont asymétriques, hein, par définition, une relation de pouvoir est asymétrique, mais aussi négociée. Pas une relation univoque. C'est une relation qui appelle effectivement des discussions, des négociations. Et je crois que c'est quand même un peu ça que tu nous livres dans l'ouvrage. Rapprochement aussi dans la sensibilité que tu as, et qu'ont ces sociologues aussi, ou qu'ont eu ces sociologues, aux interactions qui font naître et entretiennent ces relations de pouvoir. Et puis sensibilité aussi, tu l'évoquais tout à l'heure, aux relations informelles et aux tolérances avec les règles. C'est un exemple autour de la consommation d'alcool sur les chantiers qui m'a fait penser à ça et que j'ai rajouté à ma liste de rapprochements. Donc il me semble qu'il y a là beaucoup de proximité. Et alors je pense en particulier à l'un de ses travaux, ceux de Pierre Grémion, que tu connais très certainement, sur le pouvoir périphérique. Paru aux éditions du Seuil, sauf erreur, en 1976, en tout cas milieu des années 70, qui est un grand classique du genre, avec comme sous-titre « Bureaucrates et notables dans le système politico-administratif français ». Alors on est vraiment très loin de ça sur ton terrain, à tous les sens du terme. Il y a évidemment dans ton travail des proximités, mais aussi des choses foncièrement différentes. Vous ne partez pas du même... des mêmes traditions de recherche, vous n'explorez pas forcément les mêmes choses et vous ne vous posez pas les mêmes questions. Ton travail est totalement détaché, notamment de ce fond fonctionnaliste, hein, qui est encore très présent dans les travaux de Crozier et de Grémion. Mais ce que montre Grémion dans son ouvrage sur le pouvoir périphérique, c'est comment, dans un contexte de très forte centralisation, hein, on est début des années 70 sur ces terrains, comment une élite politique locale émerge et se nourrit justement de ce centralisme étatique qu'elle parvient à négocier, qu'elle parvient à domestiquer, pardon, en négociant justement des arrangements et des assouplissements dans les interstices de la règle républicaine, en gros, de la norme, la loi et le règlement. Et ce faisant, donc il met à nu un paradoxe, hein, ce qu'il appelait le jacobinisme apprivoisé, qui est finalement d'une élite politique locale qui s'autonomise grâce à l'hypercentralisation, parce qu'elle réussit justement à en tirer des ficelles et en tirer des sources de pouvoir dans un contexte hypercentralisé. Et si elles réussissent effectivement à s'autonomiser sur des bases aussi fragiles, c'est parce qu'elles arrivent effectivement elles seules à constituer une sorte de monopole, quoi, d'accès aux instances de décision, quoi, en s'appuyant sur des hauts fonctionnaires locaux, des ministères et des préfets, pour en faire des relais, en quelque sorte, en direction du centre. Et ce que montre Grémion, finalement, c'est que par ce biais-là, finalement, les jeux informels de négociation, voire les collusions, il utilise ce terme même, entre bureaucrates et notables, vont contribuer très fortement à intégrer. C'est un peu le paradoxe, hein, tout en résistant, tout en détournant, tout en faisant dévier, en quelque sorte, les politiques nationales. Au-delà de ça, ils arrivent à les incorporer, en fait. Hein, ils sont des facilitateurs, finalement. Ces notables deviennent des facilitateurs des politiques nationales et finissent par permettre une certaine stabilité, une certaine continuité des politiques publiques et aussi une bonne intégration de l'État dans le maillage local, quoi. Donc on a des hauts fonctionnaires qui sont des relais ascendants, en quelque sorte, vers le pouvoir central, et puis des notables locaux qui sont des relais vers la société locale, notamment les milieux d'affaires, les milieux économiques, quoi. Et il me semble que c'est un peu ce que je lis en te lisant. C'est finalement comment une ou des élites indigènes, notamment d'intermédiaires, hein, se constituent sur la capacité, alors tu l'as rappelé, à pacifier les situations, mais aussi, pas seulement, aussi à négocier avec les industriels des retombées économiques ou collectives. J'y vois cette proximité-là. Et puis aussi, comment les grands groupes pétroliers, mais surtout l'État péruvien, renforce finalement son emprise sur les territoires via ces jeux de négociation et ces formes diffuses d'appropriation que tu décris, quoi. Donc j'aurais bien aimé avoir ta réaction là-dessus, si toutefois ça te paraît pertinent et si ça te met pas mal à l'aise, si tu connais mal cette littérature peut-être. Mais voilà, c'était juste une... Vraiment, c'est quelque chose que j'ai ressenti assez fortement, en fait, en te lisant. Bon, j'avais une deuxième piste, un peu comme ça, ou un deuxième, pour le coup, fil relatif aux ficelles du métier. Enquêter sur plusieurs fronts, comme tu l'as fait, en travaillant à l'articulation de l'action collective, de l'activité industrielle et de l'action publique, on est forcément confronté à cette difficulté pratique que tu as eue et que tu évoques, d'ailleurs, dans ton bouquin. Alors, non pas, je dirais, à mener de front plusieurs terrains, puisque tu as justement travaillé à leur intersection, mais en tout cas à maintenir ouvertes les possibilités de contact avec les différents acteurs et groupes sociaux, qui sont tous précieux pour l'enquête, dans un contexte qui est marqué à la fois par l'interconnaissance, hein, tu décris bien ces mondes qui se connaissent, pas seulement dans les villages, hein, mais à des échelles plus grandes, et aussi par la défiance mutuelle que les uns et les autres, il y a des proximités, il y a l'interconnaissance, mais il y a aussi des tensions, des conflits, et du coup un phénomène de camp ou de clivage qui se crée et qui... Du point de vue de l'enquête, du coup, peut devenir une source de problèmes. Je pense notamment aux effets d'enclicage et à la manière dont tu as joué et dont tu les as déjoués, ces effets d'enclicage, notamment à un moment quand tu deviens assesseur. Tu l'as pas dit à l'oral, mais tu l'as écrit. J'ai pas eu le temps, je crois, que tu as écrit un papier dans Genèse sur ces choses-là. Bon, je voulais le lire. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de le faire. Mais bon, ce n'est que partie remise. Mais tu dis que tu es devenu assesseur. J'ai bien aimé, d'ailleurs, ce passage dans ton bouquin où tu expliques comment tu as réussi, en fait, à pouvoir endosser ce rôle.
Donc, assesseur, c'est salarié d'ONG, ouais, qui accompagne les leaders.
Tu vas peut-être revenir ensuite en répondant. Du coup, tu pourras éclairer... Notre public. Et puis tu as fini par renoncer à cette casquette quand tu t'es rendu compte justement que ça te marquait un peu trop et ça t'empêchait, ça te fermait en fait certains accès au terrain et notamment au plus près dans les villages, au plus près des populations et des habitants. J'ai trouvé ça passionnant et ça fait écho en fait aux difficultés qu'on a nous en ce moment sur un terrain aussi qui se construit à la croisée. On a un projet de recherche, un programme de recherche, pardon, qui sur la production, le stockage et la distribution d'hydrogène, de verre à base de photovoltaïque. Et il en essaie justement de faire tenir un peu, comme toi, on approche cette politique par le bas, à ta manière, mais on essaie de la faire tenir un peu par tous les bouts. Et on a un peu cette difficulté-là. Mais alors, on l'a peut-être moins parce qu'on est un collectif. On est un collectif. Toi, tu as mené cette recherche en solo. C'est beaucoup plus compliqué d'assumer plusieurs casquettes. Nous, on sait, par exemple, qu'on a dans l'équipe un certain Pierre Fournier, dont on connaît les proximités avec les industriels. Et c'est lui qu'on envoie un charbon, ce qui, pour un spécialiste du nucléaire, ne manque pas de sel en passant. Mais on arrive un peu comme ça à jouer là-dessus, mais et à se protéger, mais pas complètement non plus. Enfin, on a eu quelques difficultés à ce sujet. Y a pas, on a vécu des épisodes un peu compliqué, dont on a peut-être pu se sortir, en tout cas, je l'espère, mais j'imagine à quel point la difficulté doit être plus grande quand on est en plus toute seule, comme tu l'as été, et que tu n'as pas cette possibilité-là. Ceci dit, tu as réussi effectivement à jouer, à déjouer, comme je le disais. Et voilà, j'aurais bien aimé que tu reviennes un peu là-dessus. Troisième point... la question de la transgression des frontières, l'entreprise Bussao séduit en ce qu'elle s'emploie justement à transgresser, me séduit en tout cas, à transgresser des frontières entre les éléments de la sphère sociale. C'était un peu le point de départ hein, justement du colloque et de ta réponse. Entre les éléments de la sphère sociale qui sont souvent saisis comme des objets en soi, hein, frontières entre le politique et le social. Quand je dis le social, je veux dire vraiment l'ordinaire de la vie sociale, hein, c'est-à-dire le travail, les relations de voisinage, les sociabilités villageoises, jusqu'à l'intimité. L'intimité familiale, voire du couple. Hein. Il y a beaucoup de portraits dans ton ouvrage qui va très loin de ce point de vue-là. Donc des frontières aussi entre l'action collective protestataire et le soutien, l'adhésion ou la collaboration en attente ou dans l'espoir de contrepartie. Il y a un tel parti pris d'enquête. Alors, permet de restituer d'abord toute la complexité du terrain, et tu le fais vraiment très très bien, mais aussi toute l'ambivalence hein, des prises de position qui sont analysées, que tu analyses d'ailleurs très très finement, hein, comme autant de compositions entre une hostilité de principe et puis, d'une part, des bénéfices entrevus ou espérés, je le disais, de l'autre part, et puis des liens interpersonnels qui viennent au concret peut-être un peu atténuer comme ça... la rigueur des conflits opposants industriels et indigènes, entendu in abstracto, quoi, comme des grandes catégories. Et on a un peu l'impression, en te lisant, que la proximité avec le terrain, je pense surtout ici ton immersion hein, auprès des populations villageoises, t'a conduit à nuancer peut-être des hypothèses de départ sur lesquelles j'aimerais bien que tu nous éclaires, parce que c'est une chose que tu ne dis pas trop. Alors, je ne l'ai peut-être pas vu, mais il me semble que tu ne dis pas trop dans l'intro. Je ne sais pas pourquoi. Je te vois bien au départ avec des hypothèses peut-être un peu plus tranchées et une attention peut-être un peu plus soutenue à des situations que tu as identifiées comme conflictuelles. Donc, je te vois peut-être au départ, mais peut-être à tort. Plus focalisé sur la dimension conflictuelle de la situation et j'ai un peu l'impression en te lisant que c'est l'immersion ethnographique qui finalement t'a donné à voir une autre réalité faite finalement de soutien autant que d'opposition. Alors, est-ce que tu peux nous éclairer sur tes intentions de recherche ici et puis les transformations au fil de l'eau, enfin fil de l'eau d'ailleurs prend tout son sens ici puisque tu as enquêté sur les rives du Pastaza. Enfin, en tout cas, moi, ce que je retiens sur ce point-là, pour prolonger un peu l'idée de l'ouvrage, c'est quand même tout l'intérêt qu'il y a à penser ensemble, plutôt qu'à les opposer ou à en occulter certaines, les expressions, toutes les expressions observables des mobilisations, celles qui sont à visée protestataire et sur lesquelles il existe déjà une abondante littérature, mais aussi celles qui, à bas bruit, facilitent la venue ou le maintien d'activités industrielles dans les territoires. Et c'était un peu le défi que vous avez soulevé, Pierre et Cesare, dans votre dernier ouvrage collectif sur les territoires en transition, si je ne déforme pas le titre.
Territoire des transitions énergétiques. territoire des transitions énergétiques, où vous justement, vous essayez de mener de front ces deux dimensions, enfin même ces, je dis deux pour simplifier, mais il y en a en réalité tout un nuancier dans cet ouvrage collectif, hein, qui vont donc encore une fois de l'opposition frontale au soutien explicite, en passant par justement des tas de postures intermédiaires beaucoup plus ambivalentes. Et puis, quatrième et dernier point, parce qu'il faut laisser le temps à la discussion, sur les échelles de l'analyse, j'aimerais bien t'entendre sur une question qui fait un peu débat, parfois entre nous, chez nous, c'est jusqu'où descendre sur le terrain, jusqu'où descendre dans l'analyse. Bon, on est à peu près tous d'accord sur l'intérêt qu'il y a à multiplier les échelles, hein, et si possible les croiser, comme tu le fais très bien, mais l'enquête impose de faire des choix. Il y a un moment où une dominante s'impose, même si elle n'est pas forcément une intention de départ. On est de fait, je dirais, amené, conduit à privilégier un aspect plutôt qu'un autre, une échelle au détriment d'une autre. Alors, est-ce qu'il faut s'en tenir à un niveau intermédiaire d'analyse, celui du groupe social, ou aller jusqu'à l'individu? L'individu saisit, alors, non pas seulement uniquement à partir de son appartenance sociale, mais vraiment dans sa singularité propre, en tant que personne, en état attentif à ses trajectoires personnelles, familiales, résidentielles. Tu as choisi cette voie, sans doute ta formation en partie d'anthropologue, tu as sans doute conduite à avoir cette sensibilité-là. Il y a beaucoup de portraits, et d'ailleurs de façon très très significative, tu inaugures ton ouvrage par le quotidien de cette femme, et tu as repris cette mise en intrigue d'ailleurs au moment de ton exposé, et puis ton ouvrage est vraiment jalonné de portraits, hein. Donc il y a vraiment un attachement aux personnes, que tu remercies d'ailleurs, hein, très chaleureusement. Et on sent effectivement que la dimension individuelle a compté beaucoup. Et a compté, alors ça a compté affectivement, humainement. Hein, c'est une enquête est toujours une expérience, humaine,
on
évidemment.
Laisse un peu de soi-même aussi.
On y laisse de soi-même. Tu as été hébergé, tu as gardé, j'imagine encore gardé beaucoup de liens avec des gens qui t'ont soutenu, qui t'ont aidé, qui t'ont accueilli, etc. La question que je me pose, c'est finalement, c'est quel bénéfice, enfin, descendre jusqu'à l'échelle de l'individu apporte à la compréhension des mobilisations de l'action collective. Alors, c'est peut-être un peu difficile, mais voilà, on a un peu ces discussions-là, quoi. Est-ce qu'il faut aller jusque-là, ou est-ce qu'on peut s'en tenir à un niveau d'analyse plus intermédiaire en termes de groupe social, par exemple, quand on cherche à saisir les mobilisations, à saisir les dynamiques?